Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très contents de vous retrouver dans votre émission favorite du troisième jeudi de chaque mois et du samedi matin en rediffusion. De quoi allons-nous parler ce soir ?
Gloria bravo pueblo que el duro lanzó, la ley respetando la virtud y honor.
Alors, personnellement, je ne connaissais pas du tout cette chanson. En fait, c'est l'hymne vénézuélien. Donc, nous allons parler du Venezuela dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on verra plutôt les rapports entre les États-Unis et le grand continent d'Amérique latine, c'est-à-dire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Alors, Patrick.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va bien.
Un petit qui suis-je ?
Ouais, concernant donc un petit peu un sujet global. Concernant l'Amérique latine, je suis un dirigeant d'un grand pays d'Amérique latine. Je ne suis pas Hugo Chavez, puisque Hugo Chavez, on va en parler largement. J'ai dirigé mon pays entre les années 2000 et 2010. Qui suis-je ? Réponse à la fin de l'émission.
Grande question. Eh bien, je crois qu'on va directement commencer par toi, Patrick. Le Venezuela est vraiment sous les feux de l'actualité. Hein. Ça va pas fort. C'est même relativement catastrophique pour la population.
Ouais.
Alors, écoute, je te laisse la parole.
Ça fait quelques semaines et même quelques mois qu'on parlait entre nous de faire une émission sur le Venezuela. Et je dirais, l'actualité nous a rattrapés. Et à partir de novembre dernier, je dirais, elle nous a permis de préciser cette idée d'émission. Le Venezuela, à travers un homme que j'ai cité préalablement, qui est Hugo Chavez, qui a été au pouvoir entre 1998 et à sa mort 2013. Mais à sa mort, l'histoire a continué pour tourner au drame. Et il nous a paru intéressant de refaire un point global sur les années de Chavez et savoir qu'est-ce qui a mené ce pays à un rêve fort à travers Chavez et à un désastre à travers ce qui se passe actuellement. Donc d'abord, rapidement, avant Chavez, le Venezuela, c'est l'Amérique du Sud. Hein, c'est un continent qui, au XXe siècle, est constitué de pays assez proches les uns des autres dans certaines, une certaine structure, on pourrait dire. C'est-à-dire une grande partie de la population très pauvre ou assez pauvre, une toute petite minorité de propriétaires terriens très, très, très riches, qui ont le soutien massif de gouvernements qui sont souvent, je parle du XXe siècle, des dictatures ou alors des gouvernements à minima très corrompus. Ces propriétaires terriens très riches n'ont aucun sens de la nation, de leur nation, de leur intérêt national. Ils n'hésitent pas à les planquer massivement leur argent à l'étranger quand c'est nécessaire. Et enfin, un dernier point qu'on peut ajouter, cette petite minorité très très riche est souvent de sang espagnol avec la peau blanche, avec une majorité de la population qui, elle, a plutôt la pommade des métis.
Donc
c'est le cas, en tout cas, au Venezuela.
On peut dire qu'il n'y a aucun sentiment patriotique de leur part.
Très peu, très peu. L'idée de nation a été très longue à se construire en Amérique du Sud. Alors, le Venezuela, là-dedans, il ne fait pas exception à la règle. Il correspond un peu à cette description. Et c'est un pays qui, au début du XXe siècle, a été tourné sur le café, le cacao. Et un jour, miracle, entre guillemets, il découvre que ses sous-sols sont extrêmement riches en pétrole. Et il va se découvrir un des pays les plus riches au monde en réserves pétrolières. Son économie va donc très rapidement se réorienter quasiment exclusivement sur l'exploitation du pétrole. Et ce pays va être dirigé, bien entendu, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, durant quasiment, enfin, une grande partie du XXe siècle, par des dictatures militaires. À partir des années 60, des partis démocrates peu à peu arrivent à s'imposer à la tête du pays. On va passer aux années 80. Fin des années 80, c'est la grande vague de la mondialisation, hein, avec le FMI, les politiques néolibérales. Et le Venezuela va demander l'aide du FMI. Le président de l'époque s'appelle Carlos Andrés Pérez. Et il va donc appliquer un accord que le FMI lui impose, l'accord classique qu'on connaît, c'est-à-dire augmentation des prix des services de base. Transport en commun, etc. Gel des salaires, privatisation, austérité très violente, réduction des dépenses publiques très violente. Bref, tout ce que nos amis les Grecs connaissent très bien, puisqu'ils l'ont vécu dans les années 2010. Le résultat, c'est qu'en 89, 28 et 29 février 89, la population se soulève. Le président envoie l'armée qui tue entre 300 et 3000 personnes. Estimation très large qui est due au fait qu'on n'a pas très envie de compter en détail. Cette politique va se poursuivre dans les années 90 et elle va amener le Venezuela à un véritable effondrement. Un taux de pauvreté qui va déjà atteindre 49% de la population dans le courant des années 90 et qui montera à 80% de la population quand Chavez va prendre le pouvoir. Alors, Chavez, donc justement, va prendre le pouvoir en 98, mais avant, on va faire un petit passage par une notion qui est importante, qui s'appelle le bolivarisme. Alors pourquoi c'est important ? C'est parce qu'en fait, c'est le mouvement dont se réclame Hugo Chavez, le bolivarisme. Ce terme vient d'un monsieur qui s'appelait Simon Bolivar, qui a vécu au Venezuela. Il y est né en 1783 et il est mort en 1830 en Bolivie. Ce monsieur, on peut considérer que c'est une des plus grandes figures historiques de l'Amérique du Sud. Il a participé à l'indépendance de la Bolivie, qui a pris ce nom en son honneur. Il a participé à l'indépendance de la Colombie, de l'Équateur, du Panama, du Pérou et du Venezuela. Excusez du peu. Il formait un rêve, et c'est ce rêve que reprenait Chavez, un rêve de former une grande confédération politique et militaire d'Amérique latine, qu'il appellerait la Grande Colombie. Bon. Il a échoué, mais ce rêve perdure, et c'est un peu ça que reprend Chavez. Alors pour autant, ce qui est surprenant, c'est que son inspirateur, c'était plutôt Jean-Jacques Rousseau, c'était absolument pas, bon, Marx, à l'époque, il n'était pas encore connu, mais il était très libéral au plan politique et très libéral au plan économique. Donc c'est assez surprenant quand on connaît les positions de Chavez à ce niveau-là. Donc ça, c'était une petite précision pour expliquer un petit peu ce qu'est le fameux bolivarisme. Alors maintenant, on va en venir dans une première partie à parler du parcours politique d'Hugo Chavez. Donc c'est un militaire, Hugo Chavez. C'est un militaire qui, au début des années 80, forme un mouvement révolutionnaire, le mouvement révolutionnaire bolivarien 200, le MBR 200, qui va organiser un coup d'État, en fait, d'accord, pour prendre le pouvoir en 92, qui va échouer. Et donc Hugo Chavez va se retrouver en prison pendant 2 ans. 2 ans après, il est libéré. Il va créer cette fois-ci un mouvement politique, l'équivalent politique de son mouvement révolutionnaire, toujours bolivarien, mais qui va jouer le jeu des institutions et donc se présenter aux élections. Et c'est grâce à ce mouvement et à sa candidature aux élections qu'il est élu président en 1998 avec un slogan qui va tout de suite poser la situation. Chavez se prénomme « Je suis le fléau de l'oligarchie et le héros des pauvres ». Il est là pour mener une révolution, pour redonner de l'espoir aux pauvres. Et en 98, il en fallait de l'espoir, parce que c'était 80% de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté. C'était un taux de chômage de 18%, et c'était en plus une récession qui s'annonçait pour aggraver les choses. Tout ça dans un pays, je le rappelle, qui a les plus grandes réserves pétrolières au monde. Dans son sous-sol.
Et dis-moi, Patrick, il a été élu démocratiquement, Chavez.
Ah oui, bien sûr. À l'époque,
donc il était relativement populaire.
Il était et il est resté extraordinairement populaire, on va le voir. Extraordinairement populaire. Donc, le Venezuela, à l'époque, c'est le pays typique qui cumule deux types de mots. De mots MAUX. Les mots d'une économie de rente pétrolière, donc dépendance massive vis-à-vis de ce secteur, alors que pourtant, seulement 0,5% de la population active travaille dans ce secteur directement. Mais la richesse vient essentiellement de ce secteur-là. Et d'autres mots, ceux caractéristiques des pays latino-américains, on en a déjà parlé, la corruption, la concentration extrême des richesses et des élites qui vont placer leur argent à l'étranger en permanence. Chavez, il a le pouvoir, il va commencer par réformer la constitution du pays, de façon démocratique, hein, par contre. Il fait un référendum, une assemblée constituante, un nouveau référendum, et à chaque fois, il gagne les référendums. Pourquoi faire ? Pour avoir les coudées plus franches. Donc, le Venezuela devient, en 2000, la République bolivarienne du Venezuela. Le mandat présidentiel passe de 5 à 6 ans. Le président en exercice, qui n'était pas le cas jusqu'à présent, peut être élu immédiatement, mais une seule fois. Et il met en place quelque chose d'assez spectaculaire, un référendum révocatoire qui va permettre de révoquer n'importe qui, n'importe quel fonctionnaire, gouvernant, administrateur et même le président du Venezuela à mi-mandat, pas avant. On peut le révoquer à mi-mandat sur un référendum préalable qui doit recueillir à 7 voix. Chavez va être élu en 2000 avec 59% des voix. Il va adopter 3 grandes catégories de mesures qui vont susciter une très forte opposition. Il faut vraiment savoir, parce que là, je vais dérouler des événements, mais en permanence, Chavez va avoir en face de lui une opposition extrêmement résolue, soutenue par les États-Unis et extrêmement puissante, hein, qui contrôle pas mal de moyens de production, de moyens économiques dans le pays.
Des médias aussi peut-être.
Les médias, qui contrôlaient tous les médias, et donc la façon dont Chavez va récupérer le contrôle des médias va faire beaucoup de bruit. Mais il avait en fait été détenu par l'opposition. Hein. Alors il adopte trois types de mesures, une réforme agraire, deuxième type, une prise en main, il va reprendre en main le secteur pétrolier, augmenter les redevances sur le pétrole, et troisième catégorie, il va lancer la saisie de terrains côtiers. Alors ça va lui valoir bien sûr des manifestations pro et anti-Chavez, des tensions, une tentative de coup d'État en 2002, dont on se doute bien qu'elle est soutenue en sous-main par les États-Unis. Mais bon, il résiste et il garde le pouvoir. Alors, la tension vient aussi du style hein, de Chavez. Chavez, il a un style bien particulier. Par exemple, il fait une émission. Hein, il a fait en sorte d'avoir son émission hebdomadaire. Et toutes les semaines, il fait son émission télé où il déclame tout ce qu'il veut déclamer. Et le 7 avril 2002, par exemple, en direct, dans son émission Allo Presidente, avec un sifflet, il met à la porte les 7 dirigeants de la fameuse Compagnie nationale des pétroles du Venezuela, qui dirige la compagnie pétrolière vénézuélienne. Il en force 12 autres à prendre leur retraite. Donc évidemment, ce style un peu radical va déplaire énormément. Donc aussi sec, c'est une grève générale.
Et ça a été fait en direct à la télévision.
Ouais, bien sûr.
Oui, ça, c'est un acteur, alors.
Ah ouais, mais c'est le style Chavez, voilà. Voilà, tout là, en couleur.
Ah, plutôt,
en couleur,
oui.
C'est sûr, c'est sûr. En 2004, l'opposition va se saisir de la possibilité du mandat révocatoire, enfin du référendum révocatoire, et donc réunit à cette signature pour demander une révocation de Chavez. On est à mi-mandat. Référendum, Chavez va être donné vainqueur, enfin va gagner ce référendum à 59%, il garde le pouvoir. Fin 2006, il est réélu encore une fois, 63% des voix. En 2007, il obtient les pleins pouvoirs de l'Assemblée nationale. Bon, déjà, tiens, pourquoi les pleins pouvoirs? Pour lui donner les moyens de diriger pendant 18 mois le pays par décret en grande partie. Pour information, l'opposition était absente de l'Assemblée nationale puisqu'elle avait boycotté les élections. Alors les élections ont souvent été critiquées comme étant manipulées, etc. Mais il y a toujours eu des commissions internationales de contrôle qui ont toujours dit que non, elles étaient faites dans le respect du droit et sans manipulation.
Donc est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est une véritable démocratie?
À l'époque, ouais.
Oui.
Oui, à l'époque, je pense que c'est une véritable démocratie. Il va tenter de réformer la Constitution pour lui permettre de faire plus de mandats présidentiels. Tiens, la tentation. Vous voyez, la tentation qui arrive. D'aller au-delà des deux mandats. Cette réforme va être refusée, ça va être sa première défaite lors d'un référendum. Donc il dit « Ok, je me retirerai à la fin de mon deuxième mandat en 2013 ». Et là, les critiques vis-à-vis d'une tentation d'abus de pouvoir montent de plus en plus. On a son ancien ministre de la Défense qui le critique fortement. Il a inscrit le socialisme dans la constitution du pays, il a inscrit diverses mesures qui font plus ou moins polémique. Aux législatives de 2008, l'opposition va progresser. Pour la première fois, elle va remporter les 4 régions les plus riches et les plus peuplées du pays. Mais bon, il garde le pouvoir, il reste au pouvoir. En 2009, il lâche pas le morceau. Il relance sa proposition d'annuler la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et cette fois, il gagne le référendum. Ça lui permet donc d'aller au-delà des 2 années de pouvoir. Donc on voit les tentations hein, qui commencent à se mettre en place. Donc en 11 années de pouvoir, il a gagné quand même 12 scrutins sur 13. C'est là où on voit le soutien massif hein, de la part de la population. Il est réélu en 2012, donc pour la troisième fois, avec 55% des voix, mais là, il est gravement malade. Et en fait, il mourra en mars 2013. Certains disent qu'il est mort en fait en fin 2012 et qu'on a annoncé qu'en mars pour laisser à son ministre, Premier ministre Maduro, le temps de s'installer.
Est-ce que c'est prouvé ça ou c'est des
non,
rumeurs?
Non, c'est juste des rumeurs, on n'a pas la preuve. Et donc Nicolas Maduro, qui a assuré l'intérim, va lui succéder. Et sous le gouvernement de Maduro, eh bien, il va se passer un truc déjà très rapidement, c'est que Maduro va étendre la sphère d'influence des militaires. C'est-à-dire qu'il va permettre aux forces armées de disposer de leurs propres banques. Il va autoriser les hauts gradés à investir directement sur le marché pétrolier. Ça, Chavez avait toujours refusé de le faire. C'est-à-dire comment ça se fait. Maduro va aussi limoger les principaux responsables économiques nommés sous Chavez. Tous ceux en fait qui étaient les représentants du chavisme en quelque sorte. Maduro, il installe son pouvoir à lui. D'accord ? Il installe ses soutiens à lui, en quelque sorte. Sauf que là, je ne l'ai pas encore dit, parce qu'on va faire une partie suivante qui va parler de la situation économique. On est dans une situation désastreuse, déjà. D'accord ? Là, je ne l'ai pas annoncé. Là, je parle uniquement d'évolution politique, mais on est dans une situation désastreuse. Et donc, en 2015, l'opposition remporte les 2/3 des sièges à l'Assemblée nationale. Et là, Maduro décide donc, puisque là, il n'a plus le pouvoir à l'Assemblée nationale, de créer une nouvelle Assemblée constituante. Qui serait constitué selon un modèle dit communal, basé sur des classes et des métiers. Enfin bref, le but, c'est d'avoir une assemblée pour continuer à diriger et pour ôter le tout pouvoir à l'Assemblée nationale. On voit là une vraie dérive autoritaire, cette dérive qui est devenue incontestable.
Et je pense, mais j'en suis même sûr, il est beaucoup moins populaire que n'était Chavez.
Ah bah de toute façon, vu la situation catastrophique que je vais présenter après, il peut être que moins populaire, ça c'est clair.
Alors je me permets quelques secondes pour dire que j'ai connu quelqu'un, enfin un couple qui s'est rendu au Venezuela pour des raisons professionnelles, à Caracas. Mm-hmm. Et vous cachez, travailler chez Total, hein, évidemment. Hein. Le pétrole au Venezuela, c'est quelque chose. Et il m'expliquait que des quartiers étaient totalement interdits parce que on risquait tout simplement de se faire assassiner.
Ouais. Caracas, le niveau d'insécurité est terrible. Terrible,
c'est une des villes les plus dangereuses du monde.
Il l'était déjà avant Chavez,
mais ça s'est encore empiré
aujourd'hui. Et ça a empiré ces dernières années. Alors rapidement pour la partie politique, Maduro donc se retrouve dans une situation de dérive autoritaire. Donc le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, décide de se proclamer chef de l'État début de cette année, 23 janvier 2019. Et donc là, on se retrouve dans une situation politique extrêmement tendue entre les deux forces que sont Guaido d'un côté et Maduro de l'autre. On va faire une petite pause, on va écouter un peu de musique traditionnelle vénézuélienne et on reprendra un peu le fil de cette discussion.
Carmenteur, vous êtes bien sur Radio Calade 100.9. Vous venez d'écouter un très très bon, très joli morceau de Los Coyas qui s'appelle La Bolivienne en français, donc en espagnol, Patrick, c'est...
La Boliviana.
Alors,
je parle pas espagnol, hein, mais bon.
Tu vas nous parler maintenant d'économie, dis-moi.
Oui, parce que là, on a fait un petit parcours rapide des années Chavez plus Maduro et on a sous-entendu qu'il y avait quand même... Enfin, on a dit clairement qu'il y avait une dérive autoritaire, mais on a sous-entendu qu'il y avait une situation qui s'est dégradée. Et donc, c'est ce qu'on va regarder à nouveau. On va recommencer au début de l'ère Chavez, d'accord ? La situation économique du Venezuela au début des années 2000. Je l'ai dit, hein, c'est un pays à la fois extrêmement riche en pétrole et extraordinairement pauvre. C'est un pays qui a gaspillé, par exemple, la manne pétrolière dans les années 70, après le premier choc pétrolier, dans des travaux pharaoniques, qui s'est retrouvé surendetté, d'où l'intervention du FMI. Et bref, quand Chavez arrive au pouvoir en décembre 98, l'économie est au plus mal. Le PIB par habitant est inférieur à celui de 1968, les inégalités sont affreuses, le système bancaire est en faillite, le travail au noir représente 60% de l'activité totale, donc c'est une catastrophe. Mais miracle de l'année 2000, les prix du pétrole flambent. Et Chavez peut se lancer dans des investissements, dans le logement, l'éducation, c'est les fameux programmes des écoles bolivariennes, dans la santé, dans l'amélioration des transports publics et dans la lutte contre la criminalité. Il dit vouloir ne pas refaire les erreurs du passé, il dit vouloir s'ouvrir aux investissements étrangers, notamment aux investissements espagnols, mais garder la main sur l'industrie pétrolière, d'accord ? Il va vraiment prendre le contrôle de la fameuse entreprise vénézuélienne qui contrôle tout le pétrole. Donc, il va récupérer une grande partie, une plus grande partie de la création de richesses, je dirais, issue du pétrole. Et il veut faire en sorte que de créer des sociétés d'économie mixte avec des privés, mais qui restent minoritaires, d'accord ? Il a trois stratégies, en quelque sorte, sous ce terme alternative bolivarienne. Une stratégie, une politique sociale, destiné à aider les classes défavorisées. Un projet d'intégration latino-américain fondé sur la coopération, ça c'est le grand rêve de Bolivar. Et troisièmement, la constitution d'un réseau de pays amis, alors qui sont pour point commun d'être les ennemis de ses ennemis, c'est-à-dire des ennemis des États-Unis, la Chine, l'Iran, la Russie, la Biélorussie, etc., etc., pour diversifier ses exportations de pétrole, parce qu'en fait, paradoxalement, le Venezuela vend en priorité aux États-Unis du pétrole. Bon, au début, ça se passe bien grâce aux recettes du pétrole qui explosent. Le PIB va progresser de 7 à 8% par an. La pauvreté va reculer petit à petit. Mais les progrès vont quand même rester lents parce que, on l'a dit, hein, les tensions politiques avec l'opposition sont extrêmement fortes. Et donc, il y a vraiment des difficultés pour faire avancer ces programmes. Et en 2003, les prix du pétrole chutent à nouveau. Donc ça montre que le programme de développement de Chavez, il se fait dans la douleur, d'accord ? Alors, il y a des avancées sociales incontestables, d'accord ?
Alors, une petite question, Patrick. Quand les cours du pétrole diminuent, alors, qu'est-ce qui se passe pour le Venezuela concrètement ?
Une chute très très violente des recettes pour l'État, d'accord ? Oui. Puisque les recettes de l'État dépendent en très grande majorité des revenus du pétrole. Donc le budget de l'État se retrouve en déficit, en deux temps de mouvement, et il n'a plus les moyens de continuer ces politiques d'investissement.
Donc pour la population, c'est quoi ? C'est moins des problèmes d'investissement pour les services sociaux ? C'est quoi ?
Oui, c'est ça. Bien que Chavez va garder la priorité sur l'aspect social, donc la population ne va pas trop en souffrir, c'est surtout les comptes de l'État qui vont se dégrader. Mais surtout, derrière ça, ces problèmes qui sont classiques d'une économie pétrolière, on va avoir d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'un pays qui est très riche en pétrole doit absolument avoir pour objectif de diversifier son économie, de faire que le pétrole ne reste pas à terme la seule source de richesse.
Donc en fait, le problème, ça a été quasiment la monoactivité.
Exactement.
Et ça me rappelle, tu sais quoi, ça me rappelle ce qu'on a eu, ça n'a rien à voir avec le Venezuela, mais au niveau des grandes villes industrielles et minières du nord de la France, où ces villes ne dépendaient de l'industrie,
du
textile. Tout à fait. Et une fois que cette activité a disparu, ça a été une catastrophe.
C'est un marasme pendant des décennies.
Complètement.
Au niveau d'un État, c'est un peu le même problème. Et là, ça va être un immense échec du côté du Venezuela et de Chavez. C'est-à-dire que dans les années 2005-2006, l'économie du pétrole représente encore 50% du PIB, 85% des exportations, 50% des recettes budgétaires. Et puis, il y a des politiques bizarres que Chavez a mis en place. C'est-à-dire que la société qui gère le pétrole vénézuélien est chargée par Chavez, par l'État, de mettre en place une politique sociale forte, comme si, en fait, cette entreprise était un deuxième État. Donc, elle va dépenser des sommes absolument folles, elle va s'endetter pour faire cette politique sociale à la place de l'État vénézuélien, en quelque sorte. C'est pas sa mission. Et le problème, c'est qu'à côté, les investissements pour renouveler, rester compétitif, renouveler le matériel, tout ça, ça va être complètement délaissé. On a un contexte d'inflation qui s'accélère. Et là, vraiment, ce problème de diversification va se traduire par un échec absolument monumental. On passe à la deuxième partie des années 2005-2010. On arrive aux années 2010 et là, on a vraiment un bilan qui est complètement dégradé. C'est-à-dire que le Venezuela reste plus que jamais un État pétrolier, d'accord, mais surtout un État pétrolier de moins en moins efficace. On a le poids des exportations de tout ce qui est pétrole dans le commerce extérieur, c'est 96% dans ces années-là, 96% du total des exportations. Les exportations non pétrolières en 2012, ce n'est plus que 68% de ce que c'était en 1998. Mmh. Donc on a un recul absolument terrible. Et si on fait un point, par exemple, une comparaison entre le Venezuela sur les années de Chavez, les 15 années de Chavez, comparons par exemple à la Colombie, au Chili et au Pérou, la comparaison elle est très cruelle. Le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse, la création de richesse par habitant durant ces années-là, n'a augmenté que de 0,9% par an durant ces 15 années de Chavez. En Colombie, c'est 2,4% par an. Au Chili, c'est 3% par an. Au Pérou, c'est 3,7% par an. Donc, c'est un résultat catastrophique pour un pays qui est infiniment plus riche que les trois que je viens citer. Mmh. Et à côté, tout concourt à montrer que c'est un désastre. C'est-à-dire que le pays est obligé d'importer massivement du café, du maïs. Alors, je vous rappelle, on avait dit en début d'émission que c'était leur production initiale, naturelle, en quelque sorte. Les entreprises du secteur public vénézuélien sont dans un état d'inefficacité catastrophique. L'industrie locale a disparu, ou elle a quitté le pays. Le tourisme décline parce que le pays est à nouveau extrêmement peu sûr. Et même la production de pétrole, qui est le cœur de métier, je dirais, du Venezuela, va baisser de 25% par rapport à 98. Parce que s'il n'y a pas d'entretien, il n'y a plus d'investissement. Donc on est dans un état de délabrement et on est dans les années de Chavez. Et c'est de cet état de délabrement que Maduro va hériter. D'accord ? J'ai dit que sous Maduro, il y avait une dérive autoritaire, on est d'accord. Par contre, la dérive économique, elle ne date pas de Maduro. Elle date des années de Chavez. Mmh. Et donc, en plus, sans vouloir être méchant, beaucoup d'observateurs disent que Maduro ne brille pas par ses compétences, d'accord ? Donc, ce n'est pas lui qui avait les épaules pour relancer le pays. Et donc, à partir du moment où il arrive au pouvoir, en avril 2013, je parle de Maduro, va y avoir des années de pénurie, des années d'émeutes. En plus, entre mi-2014 et mi-2015, le baril de pétrole va perdre les deux tiers de sa valeur. Donc, il y aura un nouvel effondrement des recettes du Venezuela. Et on passe d'une inflation qui a toujours été forte. Entre 2000 et 2010, ils avaient une inflation genre 30% par an. Donc c'est une inflation qui ferait prendre une crise cardiaque à un Allemand moyen. Sauf qu'on va passer à l'hyperinflation, on va passer à 700%. Puis après, on va passer à plusieurs dizaines de milliers de pourcents.
Donc c'est-à-dire que maintenant, en gros, la situation du Venezuela, c'est un pays dirigé par quelqu'un qui est... incapable de trouver des solutions, j'ai l'impression.
Non, totalement,
ouais. Une population en énorme souffrance.
Ah oui, on va en parler, ça va être
ils ont des problèmes alimentaires, je crois. Il y a un gros problème par rapport à la production d'électricité. Il y a tout le temps des pannes majeures,
j'ai cru comprendre.
Enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant ? C'est vraiment
chaos. Déjà, c'est le chaos. Juste entre 2014 et 2018, le PIB recule de 44%. Il est presque divisé par deux. La pauvreté est remontée à un niveau pas possible. Le taux de mortalité à la naissance explose. Les investisseurs institutionnels internationaux, ceux qui achètent de la dette, vous savez, ils achètent de la dette des pays, ils n'achètent plus la dette du Venezuela parce qu'ils commencent tous à avoir très peur. Et en 2018, on peut dire qu'une grande partie de la population ne mange plus à sa faim. Les hôpitaux sont remplis d'enfants qui souffrent de malnutrition. La dette extérieure est colossale. On ne peut plus acheter des denrées de base qu'au marché noir, à des prix pas possibles. Et plus de 100 000 personnes essayent chaque mois de passer la frontière.
Oui, forcément, oui. L'immigration.
Aujourd'hui, on est à 3 millions de personnes qui ont quitté le Venezuela depuis 2016.
Alors, rappelle-moi la population du Venezuela, parce que je ne l'ai pas en tête.
Alors, elle est moindre que la France. Si c'était la France, ce serait 6,7 millions. C'est à peu près la moitié.
D'accord.
Si c'était la France, on serait à plus de 6,7 millions de personnes qui auraient quitté la France.
Mais c'est énorme comme chiffre.
Ah, c'est gigantesque. Et ce n'est pas fini. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dit que d'ici la fin de cette année 2019, on devrait monter de 3 à 5 millions de personnes qui auront quitté le Venezuela. Et ce qui serait, si on arrive à ce chiffre, plus que le nombre de réfugiés syriens en Turquie, Liban, Jordanie. Donc c'est une situation de désastre absolu. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas parlé des vilains américains, de Trump qui a enfoncé un peu plus le Venezuela la tête sous l'eau puisqu'il a prononcé des sanctions. Oui, enfin, Trump, il est arrivé au pouvoir en 2017, d'accord ? Et en 2017, le mal était déjà fait. Et au contraire, sous son prédécesseur Obama, le Venezuela a bénéficié plutôt d'une certaine accalmie en termes de relations politiques avec les États-Unis, parce que Obama voulait plutôt jouer l'ouverture aussi bien avec Cuba qu'avec le Venezuela. Donc même si en sous-main, les États-Unis ont toujours soutenu l'opposition, peut-être qu'ils ont participé à la tentative de coup d'État, on ne peut pas dire que c'est les États-Unis qui ont mis le Venezuela dans cette situation. C'est bel et bien le rêve de Chavez qui a fini en cauchemar, en quelque sorte.
Alors moi, ce qui me dérange par rapport aux États-Unis, c'est par rapport au fait que Guaido, en fait, a été immédiatement, on va dire, choisi par les Occidentaux. Pour moi, c'est une forme d'ingérence. C'est-à-dire que effectivement, il faut trouver quelqu'un d'autre, mais pas de cette façon-là.
Ouais,
ça me dérange. Voilà.
Tout à fait, on est d'accord. Et là, on est dans quand même un classique de l'interventionnisme américain des États-Unis en Amérique du Sud. Et c'est ce qui va nous permettre de faire le lien avec la deuxième partie de l'émission. puisque maintenant on va parler, alors non pas à travers le cas du Venezuela, qui est peut-être pas le cas le plus exemplaire, mais on va refaire une petite remontée historique sur la façon dont les États-Unis ont toujours considéré l'Amérique latine comme leur chasse gardée.
Absolument.
Et c'est pour ça que je vais te laisser la parole pour cette deuxième partie.
Merci Patrick. Je vais parler en fait d'un fruit sympathique qui s'appelle la banane. Et je parlerai, pour terminer l'émission, du cuivre au Chili. Bon. Alors, je me suis posé une question toute simple. Parce que comment une superpuissance, donc comme les États-Unis, comment cette superpuissance peut-elle coloniser son continent, souvent en démocratie, alors qu'elle est censée la défendre, cette démocratie? Eh bien, on va remonter dans l'histoire. On va remonter au fin 19e siècle, début 20e siècle. La banane est un fruit, fin 19e siècle, rare et cher. Donc on trouvait effectivement des bananes dans les grandes villes occidentales, en Amérique du Nord, mais ce fruit coûtait cher, il fallait l'importer, et généralement c'était un fruit consommé à des périodes précises de l'année, donc c'était réservé qu'à une infime partie des gens. Alors vous avez un personnage qui s'appelle Minor Cooper Kite. Minor Cooper Kite est un très gros industriel américain qui est spécialisé dans la construction des voies ferrées.
Donc là, on est au 19e siècle ?
On est fin 19e. On est aux alentours de 1890.
D'accord.
Et donc, au Costa Rica, le président du Costa Rica lui demande d'installer le chemin de fer dans son pays. Ce qui paraît logique. Mm. On est en pleine période de la révolution industrielle. Mm. Toutes les grandes nations sont obligées de construire le chemin de fer. Mm. Et comme les Costa Ricains ne savent pas faire, ils demandent aux Américains qui, eux, effectivement, savent faire. Hein. Je rappelle quand même que la ligne qu'ils ont réalisée en 1869 entre la côte Est et la côte Ouest, c'était un travail de titan.
Oui, c'était un exploit pour l'époque.
Donc, les Américains savent faire, mais... Donc, Minor Cooper Kite, c'est avant tout un chef d'entreprise. Mmh. Donc, lui, ce qui l'intéresse, certes, c'est de construire le chemin de fer, mais c'est aussi, évidemment, faire du profit.
Oui, bien sûr.
Et la construction ne se déroule pas bien. Pourquoi ? Ben, parce que le Costa Rica est un état très montagneux, parce qu'il y a des problèmes avec des insectes dangereux. Donc, forcément, il y a pas mal de morts sur le chantier, ça avance mal. Et il se dit, ben, en fait, je ne me fais pas beaucoup d'argent.
D'accord.
Et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a une plante qui s'appelle la banane qui pousse extrêmement facilement et extrêmement vite. Mmh. Et là, il a eu un déclic.
Bon sang, mais c'est bien sûr.
Évidemment. Je vais proposer au gouvernement du Costa Rica de continuer la voie ferrée à condition que je récupère des terres. D'accord. Pour pouvoir acheter les bananes, les acheminer jusqu'au port... donc le plus proche, on va dire, de la côte des Caraïbes. Et de ce port, je prends un bateau, je l'emmène à la Nouvelle-Orléans et j'inonde le marché américain des bananes.
D'accord, il retrouve un moyen de faire du bénéfice.
Exactement. Et ce qui va se passer au Costa Rica, mmh. ça va se faire du Guatemala, donc, qui est juste au sud du Mexique, jusqu'à la Colombie.
D'accord. Ouais.
C'est là vous avez
la même méthode partout.
On l'appelait à l'époque, on appelait ça dans les années 50, Banana Land.
D'accord.
Les Américains, ils connaissaient Banana Land en publicité parce qu'ils sont très très forts là-dessus. Et donc vous avez donc l'ensemble de ces pays qui vont en fait demander à peu près la même chose que le Costa Rica, mais Minor Cooper Kite, qu'est-ce qu'il va faire? Systématiquement, il va prendre les meilleures terres.
D'accord, il va imposer ses méthodes à
il
chaque fois.
Il va imposer à chaque fois, effectivement, de récupérer les meilleures terres pour sa United Fruit Company, qui est créée en 1899.
La fameuse United Fruit.
Alors, on dit que c'est, dans l'histoire, la première multinationale, c'est-à-dire que c'est une entreprise, une grosse entreprise, qui fait essentiellement son chiffre d'affaires à l'étranger.
En dehors du territoire américain, des États-Unis.
Alors, vous me direz, où est-ce que j'ai appris tout ça? J'ai appris tout ça sur un reportage d'Arte qui était extrêmement bien fait. Et ces idées sont développées par, donc je donne mes sources, Geoffrey Jones, qui est un historien des multinationales et qui travaille à Harvard Business School. Donc, c'est pas un charlot. Vous voyez, donc... Donc, cette naissance de la multinationale fait de la banane un commerce extrêmement lucratif.
D'accord.
Donc, une petite fruit company grandit. Alors, précisons quand même que les salaires sont extrêmement bas. Il fait venir, d'ailleurs, ça, c'est des anecdotes que j'avais entendues. Il fait venir des prisonniers des États-Unis pour les faire travailler dans les bananeraies, et si jamais, au bout d'un certain temps, effectivement, de travail, ils arrivent à tenir le coup, parce que s'il faut tenir,
survivre,
hein, voilà, survivre, ils pouvaient rentrer libres chez eux.
D'accord.
Ouais. 80% sont morts.
Ouais, voilà.
Donc dans des conditions extrêmement
marché
difficiles.
Vite,
exactement, conditions extrêmement difficiles, salaire très bas et quasiment pas d'impôts.
Cool.
Donc
le rêve des multinationales.
Exact. Minor Cooper Kite se fait énormément d'argent avec l'United Fruit Company, mais personne n'est immortel.
Ouais.
Donc il meurt à la fin des années 20.
D'accord.
Et il laisse évidemment un empire. Mm-hmm. On va l'appeler la poulpe. Alors la poulpe, c'est à la fois...
Le poulpe.
Poulpe, et autant pour moi. Je pensais à la pieuvre, c'est pour ça que...
C'est l'un ou l'autre.
Donc c'est le poulpe, et il va être remplacé par un autre producteur de bananes, mais qui était au départ beaucoup moins puissant que lui. Et donc il va récupérer l'United Fruit Company, parce qu'il avait des actions dans cette United Fruit Company. Et ce personnage est un personnage un peu spécial, c'est Samuel Dzumeret. Il venait de Moldavie, d'une famille extrêmement pauvre. Mmh. Et évidemment, le rêve américain étant là,
la success story.
Il a traversé déjà l'Europe, l'Atlantique. Il arrive aux États-Unis. Il commence à faire de l'argent avec les marchés agricoles. Mmh. Il se met dans la banane. Et en 1933, il récupère United Fruit Company.
Bravo.
Donc c'est une réussite totalement américaine.
Oui, c'est ça. C'est success story.
Et quand il récupère United Fruit Company, il se dit une chose. Aux États-Unis, vous avez un personnage qui n'est pas très connu, ou tout le moins qui est connu des spécialistes, qui s'appelle Edward Bernays. Mm-hmm. Alors, je t'en ai déjà parlé de ce Edward Bernays.
Oui.
Il a, en fait, depuis, en gros, depuis la guerre de 14-18, donc depuis 1917, quand les États-Unis sont entrés en guerre contre les États-Unis, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est lui qui a réuni un groupe de personnes pour trouver une solution, c'était comment faire entrer les États-Unis dans la guerre, sachant que le président Wilson avait été élu en 1916 en disant le contraire.
Oui, oui.
Changer d'avis en un an. Eh bien, il va inventer le principe de la stratégie du consentement. C'est-à-dire qu'il va étudier les foules. Il va d'ailleurs écrire un livre qui s'appelle Propaganda. Il va étudier les masses. Et il va être capable de proposer quelque chose de négatif qui fera du mal aux individus, en disant le contraire. Mmh. C'est-à-dire, je donne un exemple, peut-être que je me suis mal exprimé.
Bon, on n'a rien compris, mais c'est pas grave.
Hein. Oui, alors je reprends avec un exemple plus précis. Dans les années 1920, où les femmes ne fumaient pas, c'était comme ça, c'était mal vu, c'était que les hommes qui fumaient, et c'était inscrit dans les mœurs. Edward Bernays, ou plutôt les grands vendeurs de cigarettes aux États-Unis vont le voir. Il dit, écoute, Edouard, il faut que tu nous trouves un truc.
Pour que les femmes se mettent à fumer.
Voilà, pour qu'on puisse plus vendre, plus faire de profit.
Bah ouais, il y a quand même 50% de femmes hein, dans le monde.
Exactement, il dit tout simplement, c'est très simple, vous dites que les cigarettes aident à l'émancipation de la femme. Et comme on est en plein dans les années 20, la garçonne, etc., l'émancipation de la femme, ça cartonne.
Ça me marche à fond, hein, l'histoire de la femme avec la cigarette à la main à cette époque. Enfin, même aujourd'hui, on se souvient, entre guillemets, hein, historiquement.
Et ça va durer longtemps.
De l'impact, hein,
et ça va durer très très longtemps, cette affaire.
Tout à fait. Donc il a vraiment réussi son coup, le gars.
Donc, non seulement.
C'est un des précurseurs du marketing, un des inventeurs du marketing et de la communication en général.
Et de la communication aussi, quelquefois même en politique. Alors il a été aussi très proche de Franklin Roosevelt.
Et
je l'avais aussi expliqué, il le conseillait en communication, notamment c'est un des premiers présidents, j'en avais déjà parlé quand on avait fait des missions sur le président, c'est un des premiers présidents qui se mettait en avant avec sa famille.
Ouais, je le conseille. Ok, mais alors quel rapport avec notre United machin United
Edward Bernays, alors je vous explique, donc, il a quand même quasiment traversé le siècle. Hein.
Ouais.
Il a été actif de 1916-17. Jusque la fin des années 70.
D'accord.
Vous imaginez. Donc,
longévité active.
Eh bien, l'United Fruit Company va avoir un problème en 1954 au Guatemala. Vous avez un président démocratiquement élu, un peu comme Chavez tout à l'heure, qui s'appelle Jacobo Arbenz.
Oui.
Il est élu donc au Guatemala et il veut faire une réforme agraire en défaveur de l'United Fruit Company.
Et généralement, ça passe pas. Hein.
Alors, il voudrait surtout, il y a une chose qui est importante, il voudrait surtout payer correctement l'United Fruit Company. Il ne veut pas récupérer de force les terres.
D'accord.
Il ne veut pas collectiver de force.
Oui, d'accord, donc c'est une réforme modérée.
C'est une réforme tout à fait modérée. Mmh. Lui-même est un modéré. D'accord. Il est socialiste, modéré, un peu un socialisme qui me rappelle un peu socialisme ce qu'on avait en France en 81.
Oui, oui, oui.
Parce que je me rappelle en 81, quand on disait socialiste, les Américains ont pris peur. Hein. Ils pensaient qu'il allait avoir les chars soviétiques aux portes de Paris. Mmh. Non, non, un socialisme tout à fait
non
modéré.
Non marxisant, on va dire.
Voilà. Mais le problème, c'est que ça déclenche l'ire de l'United Fruit Company. Donc, Edward Bernays est appelé en urgence par le gouvernement américain, parce que l'United Fruit Company demande à Eisenhower de trouver une solution pour que l'United Fruit Company puisse récupérer le marché de la banane. Mmh. Qu'il a fait. Eh ben, comme tu le disais tout à l'heure, on fait croire que c'est un communiste proche de l'URSS.
On va salir la
on va salir l'image à travers effectivement donc des vidéos qui passaient au cinéma, réalisées en grande partie par l'équipe d'Edward Bernays.
Donc là, on est vraiment dans de la propagande.
Complètement, ouais, on peut dire maintenant une fake news.
Même de la manipulation, ouais, tout
oui,
à fait.
Oui. Mais le problème, c'est que ça a été terrible pour le Guatemala.
Ouais.
Parce que donc le président Arbenz a été dans l'obligation de démissionner.
Ouais.
Et s'en est suivi une guerre civile.
Ouais,
et comme d'habitude, a priori, ça a dû faire environ 100 000 morts. Guerre civile entre les pros du président et ceux qui étaient sans doute en sous-main armés par la CIA.
Là, c'est sur plusieurs décennies, là, ton chiffre.
Ah, là, c'est sur quasiment 30 ans. Hein.
D'accord. Parce que 100 000, c'est gigantesque.
C'est sur une trentaine d'années. Ans, ouais. Vous imaginez une guerre civile qui a duré 30 ans.
Ouais. Une guerre interminable.
Donc voilà, pour vous montrer un peu le rapport qu'il y a pu avoir ici. Pour un fruit... Personnellement, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Je l'ai découverte récemment pour un fruit qui paraît, au demeurant, très sympathique.
Alors, dès que quelqu'un touche les intérêts économiques des entreprises américaines, le gouvernement n'hésite pas à intervenir, en quelque sorte.
Exactement ça. Alors, j'aimerais quand même aussi remercier, parce que...
Le gouvernement américain, bien sûr.
Oui, oui.
Les États-Unis.
Ce document de Arte était en allemand. Mmh. Et je ne suis pas assez fort dans la langue de gueux, donc j'ai demandé à Dominique Malch, qui lui parle couramment, il est bilingue, même trilingue, il parle très très bien trois langues, qui m'a fait un petit résumé et qui m'a permis de vous présenter l'histoire de ce fruit, la banane.
Très bien.
Alors je pense qu'on va lancer...
Une petite pause musicale,
Manu Chao, Desaparecido.
Ouh là là, Desaparecido.
Ouh là, je te laisse le dire. Merci.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo
llegaré?
Al 21.
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Llevo en el alma un camino destinado a no callar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Écoutez Poker Menteur sur Radio Calade 100.9. Notre émission aujourd'hui était consacrée dans une première partie au Venezuela de Hugo Chavez et dans une deuxième partie à l'interventionnisme américain en Amérique latine. Donc je te redonne la parole, Franck.
Merci.
Vas-y, raconte-nous la suite.
Elle va nous en parler d'un pays qui est tout en longueur, hein, le long de l'océan Pacifique, hein, dans l'hémisphère sud, qui s'appelle le Chili. Qui est un État qui a une énorme richesse, c'est le cuivre. Premier oui. exportateur et producteur mondial de cuivre.
Tout à fait. Bon.
Donc ça, il faut déjà commencer par ça, parce que ça a vraiment son importance. Alors nous sommes au Chili dans les années 70. Hein, il y a toujours cette querelle entre conservateurs et progressistes, si je puis dire, ou entre conservateurs et socialistes. Hein. Mmh. Donc vous avez un monsieur Allende, donc dit socialiste, qui est socialiste et qui est élu président de la République face à deux autres candidats. L'élection ne se faisant qu'à un tour. Là-bas.
Bon. D'accord.
Donc il est élu, je crois, avec 36 ou 37% des voix. Les autres, l'autre doit avoir, le conservateur doit avoir 34, le dernier, faites le calcul, 25 ou quelque chose
D'accord.
comme ça. Donc il est élu démocratiquement en 1970. Le seul problème, c'est qu'il veut très rapidement nationaliser les mines de cuivre, qui sont exploitées évidemment par des compagnies multinationales qui ne viennent pas forcément, et qui ne viennent pas du tout d'ailleurs, du Chili,
Bien
notamment
sûr.
Des États-Unis. Et le gouvernement, donc à l'époque, c'est Richard Nixon qui est président des États-Unis, et surtout, celui qui dirige pour moi vraiment la Maison-Blanche, c'est Henry Kissinger.
Ouais.
Le vrai pouvoir, il est là, il faut être honnête.
Ouais,
c'est un pur intellectuel. Nixon... On disait que quelquefois il abusait un peu trop du whisky, mais Nixon, c'est pas le plus grand des présidents.
Oui, c'est pas l'éminence grise. Hein.
Non, c'est pas les présidents que les États-Unis ont eu au départ.
Et là, on retrouve un classique, hein, menace sur des intérêts privés américains.
C'est ça, c'est exactement la même chose. Mm. Et là, on va sortir vraiment quelque chose qui a marqué pour moi les années 70. Mm. C'est clairement. L'interventionnisme indirect, hein, c'est toujours indirect.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'on va créer, on va armer certaines personnes, on va payer des gens, on va payer des médias pour qu'ils incitent à déstabiliser le gouvernement, à déstabiliser Allende, etc.
Ouais.
Donc on arrive au 11 septembre 1973.
Ouais.
C'est le coup d'État de Pinochet.
Ouais.
Le coup d'État de Pinochet qui est un coup d'État absolument terrible. Et déjà, je vais citer une phrase de Henry Kissinger qui dit « Je ne vois pas pourquoi il faudrait s'arrêter et regarder un pays devenir communiste, encore une fois, à cause de l'irresponsabilité de son peuple. » Donc c'est clairement sous-entendu, on va intervenir indirectement.
Et
donc ça, c'est une phrase de Kissinger.
On qualifie de communiste tous ceux qui gênent notre chemin, hein, et aussi ça. La stratégie américaine, c'est « t'es en face de moi, tu me gênes, t'es communiste. »
C'est exact.
Je peux te dégager sans problème moraux.
Alors, si on avance un peu dans le temps, donc la volonté de nationaliser le cuivre, donc c'était dans le programme d'Allende, fait que donc il y a l'intervention de Pinochet. Pinochet va mettre en place une dictature
d'une violence abominable,
d'une violence inouïe.
Ouais.
Et d'ailleurs, on en parlait aussi tout à l'heure. Je vous invite à regarder un film que j'ai beaucoup aimé de Costa Gavras qui s'appelle Missing.
Début des années 80, oui.
Début des années 80, qui nous raconte brièvement... Il m'a bouleversé, ce film. Je ne l'avais pas vu. Hein. Je l'ai vu récemment sur une chaîne de cinéma.
Ouais.
Où vous avez un couple d'Américains, des dessinateurs de bande dessinée qui s'installent à Santiago. Et ils sont présents au moment du coup d'État du 11 septembre 73. Et lui disparaît. Le mari disparaît.
Donc, d'où le terme missing, disparu.
Exactement. Et la fille recherche son mari partout, partout. C'est tiré d'une histoire vraie. Hein.
Ouais, ouais.
Et donc son père va venir l'aider pour essayer de retrouver son fils. Et là, on voit l'abomination du régime de Pinochet.
Ouais, ouais, c'est un film marquant parce qu'il a montré au grand public américain, parce que pour que les Américains s'y intéressent, il fallait que ce soit un Américain qui soit au centre. Donc c'est un Américain qui a disparu. À côté, il y a 30 000 Chiliens qui ont subi le même sort. Mais il fallait que ce soit un Américain pour qu'il s'y intéresse.
C'est ça.
Et exactement. Ils ont ouvert les yeux là-dessus grâce à ça.
Et donc ils cherchent, évidemment, ils ne vont jamais le trouver. C'est normal parce qu'en fait, il a été exécuté. Ouais. Et le cynisme a voulu que, quand on a récupéré le corps, il a été déposé à l'ambassade des États-Unis à Santiago. Et on a renvoyé le corps donc à sa femme dans le cercueil. On imagine la réaction de sa femme. Donc c'est une histoire vraie et ça marque vraiment l'horreur du régime de Pinochet qui était vraiment un dictateur absolument infâme.
Oui, des tortures, 30 000 morts et disparus, vraiment un des pires bilans qu'on connaisse des dictatures sud-américaines.
Exactement. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Nous sommes donc au Chili entre septembre et novembre 1973, oui. Et vous avez la Coupe du Monde en 1974 en RFA.
Ouais.
Et le Chili et l'URSS doivent s'affronter en barrage parce que la FIFA a décidé de donner des places supplémentaires, notamment aux pays africains.
D'accord.
Donc il y avait moins de places disponibles, donc il fallait les deux équipes ne pouvaient
faire
pas se qualifier. C'était l'une ou l'autre. Donc le match aller se passe en URSS. Le Chili résiste bien, 0-0.
Ouais.
Donc là, on est en novembre 1973. Le seul problème, c'est que le match retour, il doit avoir lieu logiquement au stade de Santiago.
Ouais.
Mais le problème, c'est que le stade de Santiago, c'est un camp de concentration.
Ouais, c'est ça, c'est là où ils avaient entassé tous les opposants et qu'ils ont tous exterminés.
C'était absolument terrible. Donc, sachant ça, et en plus, sachant qu'il y avait effectivement... il y avait effectivement ce match à jouer. Donc l'URSS boycotte. L'URSS boycotte. La FIFA donne l'URSS perdante 2-0 sur tapis vert. C'est tout à fait logique.
Ouais.
Mais le cynisme de Pinochet va plus loin. Il va imposer à ce que le match soit joué en novembre. Donc on va faire évacuer ce camp de concentration. Donc le stade paraît à peu près normal parce qu'il y a des émissaires de la FIFA qui viennent voir et qui disent oui, c'est tout à fait normal. Et le match a lieu donc avec des arbitres, hein, 90 minutes, avec 11 joueurs devant 0.
Donc, ça paraît ubuesque. Hein,
c'est complètement ubuesque. Et le Chili gagne 1-0, il marque tout de suite et après ils sont là passés à 10 pendant 90 minutes.
Wow.
Voilà jusqu'à quel niveau de cynisme on peut aller à l'époque de Pinochet.
Très bien.
Bon, je crois que c'est bientôt l'heure de la conclusion. Malheureusement, on a passé un bon moment. Alors, n'oublie pas, il faut rappeler à nos auditeurs qu'il y avait une petite question du qui suis-je.
Donc le qui suis-je, je le rappelle. Hein.
Oui, rappelle-le.
C'était « Je suis un grand dirigeant d'un grand pays d'Amérique latine dans les années 2000-2010. Je ne suis pas Hugo Chavez, parce que Hugo Chavez, c'était le sujet de l'émission. Mais j'ai marqué mon empreinte dans ce grand pays. Qui suis-je ?» That is the question.
Alors, ben moi, je pencherais bien, j'hésite. Bolivar ?
Non, Bolivar, c'était au début du 19e. Zéro, Franck.
À mon avis, c'est peut-être plus du côté du Brésil qu'il faut regarder.
Ouais, brésilien, ouais, tout à fait.
C'est pas Lula ?
Oui, c'est Lula. C'est un grand dirigeant, on va dire, de gauche globalement. Lula, mais beaucoup plus modéré que Chavez, d'accord, qui a composé avec les forces en puissance au Brésil et qui a eu quand même un... enregistré des succès assez importants dans la diminution de la pauvreté. Bon, après, son destin, il a été longtemps au pouvoir parce qu'il avait du succès. Dilma Rousseff lui a succédé et après, ils ont été emportés dans une tourmente qui est due à de multiples éléments, mais notamment à une situation économique très, très dégradée. D'accord ? Et aujourd'hui, ben, on sait que malheureusement, il leur reste au pouvoir le charmant Bolsonaro, hein, qui est d'extrême droite et qui a la grande nostalgie. Des pouvoirs militaires
style Pinochet.
Du style Pinochet,
c'est pas
totalement,
mal.
Hein, totalement. Ouais. Voilà, donc tant pis pour les Brésiliens, mais je pense que les années à venir ne vont pas être très roses pour eux.
Eh bien, donc nous allons dire au revoir à tous nos auditrices, et nos auditeurs. Sinon, je bafouille, je suis un peu fatigué après mes heures de cours et après ce passage à la radio. Merci Mathieu, merci Patrick.
Merci.
Et on va se dire au mois prochain, décidément. Allez, au revoir.
Au revoir.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.